Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La francophonie n'est plus un monde assiégé, une zone à défendre. Selon les prévisions, en 2050, 750 millions de personnes dans le monde seront francophones, presque trois fois plus qu'aujourd'hui, en grande partie du fait de la poussée démographique en Afrique. C'est donc une langue puissante qui est célébrée ce mardi à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Mais que faire de cette puissance? Qui doit la commander? En juger par le discours que vient de prononcer Emmanuel Macron à l'Académie française, cette responsabilité doit être équitablement partagée. La France, a-t-il dit, doit aujourd'hui s'enorgueillir d'être un pays parmi d'autres qui apprend, parle et écrit en français. C'est ce décentrement qu'il nous faut penser. Le français s'est émancipé de la France, il est devenu cette langue monde, cette langue archipel, a dit le président, et on aura reconnu au passage les mots d'Edouard Glissant. Alors les propos tenus par Emmanuel Macron sont importants en ce qu'ils répondent à un reproche fréquemment adressé à la francophonie, celui d'être une question préemptée par la France pour en faire un instrument au service de son seul rayonnement, une façon de prolonger son passé colonial. Alors la francophonie est-elle un instrument de domination ? C'est de cette question dont nous allons discuter ce soir avec trois invités. La première arrive directement de l'Académie française où elle a assisté au discours du président de la République. C'est vous, Marie-Béatrice Levaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la Fédération des particuliers employeurs de France, mais c'est au titre du CESE que vous êtes là, le Conseil économique, social et environnemental. Vous y êtes la référente francophonie. Et on vous doit un rapport que vous avez rendu en janvier dernier, le rôle de la France dans une francophonie dynamique. Notre deuxième invité, Nadia Yala Kisukidi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8, directrice de programme au Collège international de philosophie. Vous avez signé, et il y a quelques temps de cela, c'est pas très vieux, une chronique pour Le Point Afrique, francophonie. Mais quand va-t-on tourner le dos à la rhétorique de la duplicité? C'était le titre de cette chronique. Et puis notre troisième invité est au téléphone à Kigali, au Rwanda. Il s'agit de Yann Gouet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas rwandais, vous êtes camerounais, je crois, chroniqueur au Monde Afrique, et je citerai là aussi une chronique que vous avez signée dernièrement, « La vocation de la francophonie est essentiellement géopolitique ». Alors nous allons revenir sur les propos d'Emmanuel Macron cet après-midi, même s'il faudra aussi quand même un petit peu de temps pour les analyser de manière un petit peu plus profonde. Et ce qui nous intéresse, c'est à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, de vous voir en quoi ça peut être un instrument politique et qui doit avoir la maîtrise de cet instrument. Mais pour commencer, une question qui va peut-être vous sembler un petit peu étrange, mais qui me paraît quand même essentielle pour démarrer la discussion. Qu'est-ce que c'est pour vous la francophonie, si vous deviez la définir brièvement, disons, Yann Gouet? Ah, question.
Allô.
Oui, on vous entend.
D'accord. Écoutez, pour moi, la francophonie, je la conçois dans une perspective historique. Je n'ai aucun attachement personnel à la langue française, donc je regarde simplement l'histoire de la francophonie et donc de la relation entre la France et en particulier les pays d'Afrique francophone. Et donc, pour moi, la francophonie a été et reste aujourd'hui un des principaux piliers de la politique française en Afrique, une politique française qui a été relativement constante dans les faits depuis les années 60, même si évidemment les discours ont évolué avec le temps, et je pense qu'on en reparlera. Donc pour moi ça reste un des outils principaux de la mainmise de la France sur l'Afrique.
Donc vous y voyez un outil politique, Nadia Yala Kisukidi?
Alors déjà, sous l'idée de francophonie, j'y vois, je l'appréhende à travers sa forme institutionnelle. Et ce que dit la francophonie, en tout cas au moins depuis les années 60, c'est le prolongement d'une forte tradition d'interventionnisme linguistique mis en place par la France, qui ne commence pas avec ses relations avec l'Afrique, mais qui structure aussi l'idée qu'on peut se faire de la formation de l'État-nation France. Et moi, ce qui m'intéresse précisément dans les débats qui vont être menés et dans les débats qui sont soulevés avec beaucoup d'ambition et beaucoup de force par le président de la République, c'est précisément de voir comment se reconfigure cette forme d'interventionnisme linguistique sur le plan politique.
Alors, je suis déjà un petit peu étonné par vos deux premières interventions, mais on va voir si c'est encore le cas avec Maria-Béatrice Levaux. C'est-à-dire, je pensais que vous alliez me dire d'abord que c'est une zone, la francophonie, finalement, ce sont les gens qui parlent le français, donc qui sont francophones, c'est-à-dire peut-être une approche un petit peu plus premier degré. Est-ce que ça serait peut-être votre première approche à vous, Maria-Béatrice Levaux?
Voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que viennent dire mes deux collègues, mais c'est normal. Je pense que la francophonie, ce n'est pas la France. Enfin, je veux dire, il faut quand même arrêter d'avoir un nombrilisme, je dirais, qui soit opposant ou positif, j'allais dire, d'une certaine manière. La question de la francophonie, elle dépasse la question de savoir si la France est hégémonique au plan linguistique, si la France a, je dirais, quelques ambitions de reprendre du pouvoir dans le monde. Je pense que, pour l'avoir vraiment vécu profondément, la langue française, d'abord, c'est la langue française dont il s'agit, c'est pas de la France. La langue française n'appartient pas qu'à la France, ça c'est une position qu'il faut prendre. Et la deuxième chose, c'est que la langue française appartient effectivement aujourd'hui à peu près 274 millions de locuteurs qui ont autant de propriétés vis-à-vis de la langue française que le français que les Français peuvent en avoir.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, Maria-Béatrice Levaux. Vous dites la francophonie, ça n'est pas la France. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une difficulté peut-être de la France et des Français à se penser comme faisant partie de l'espace francophone? Il y a l'écrivain académicien d'ailleurs qui devait être sans doute là cet après-midi, Denis Laferrière, qui disait ça il y a quelques années. C'est-à-dire, il disait, pour moi, la francophonie, c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu parce qu'on ne sait jamais très bien si ce mot inclut la France ou pas, ou bien si la France n'a pas un petit peu de mal à se penser à l'intérieur de cet espace.
Ça fait des années que la France ne parle plus de francophonie. Donc, je veux dire, c'est depuis des années où là, tout d'un coup, je veux dire, quelque part, les planètes se réalignent pour faire autre chose de ce mot. Évidemment, c'est intéressant, finalement, ce mot. Et donc, je dirais, au moment où on réouvre un tout petit peu la porte pour se dire qu'il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à la langue que l'on utilise tous les jours et qui est utilisée par d'autres que nous, et que ça fait éventuellement une communauté d'équilibre, et que la question de l'hégémonie française dans cette histoire, elle est vraiment, à mon avis, assez arriérée dans cette histoire. Je pense que là, on n'est pas au centre du jeu.
Je pense qu'en tout cas, vous serez tous d'accord ce soir pour dire qu'en tout cas sur le principe, la francophonie n'est pas censée concerner seulement la France. Est-ce que la France se vit comme faisant partie de la francophonie, à votre avis, Nadia Yala Kisukidi?
C'est bien là le problème. Moi, je parlais de politique d'interventionnisme linguistique menée par une nation, la France. Il ne s'agit pas de dire et de reprendre de manière strictement descriptive l'idée que la francophonie, c'est un peu le français parlé un peu partout dans le monde. C'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de politiser la question de la francophonie. De la politiser, en quel sens? Je veux bien entendre, effectivement, qu'il s'agit de penser un décentrement, mais il est intéressant aussi de voir quels sont les lieux à partir duquel se pense le décentrement. L'Académie française, Paris, et politique d'interventionnisme, là aussi linguistique, qui est portée par un président, Emmanuel Macron. Et là, c'est extrêmement intéressant de se dire pourquoi cette politique de la francophonie est-elle portée depuis Paris à partir d'un certain type d'interventionnisme, donc qui est centralisé par la parole élyséenne. Et là, on a déjà affaire à un premier type de contradiction. Ensuite, il y a un autre discours aussi, et là, les questions politiques deviennent assez importante, et on ne peut pas dépolitiser, il me semble, la question des usages de la langue française, quand on regarde de manière strictement factuelle quel pays décide ou non de continuer à garder le français comme langue officielle. Il me semble que nous avons un collègue là qui nous parle de Kigali, et le Rwanda reste une épine du pied, il me semble, dans cette histoire de la francophonie.
Parce que le Rwanda est sorti de la francophonie en 2009 pour rejoindre l'anglophonie.
Hein, tout à fait.
Comme ça, et le Commonwealth.
On peut s'intéresser à l'hégémonie anglophone, c'est extraordinaire.
Il ne s'agit pas d'opposer ici francophonie à anglophonie.
C'est faisant de la politique.
Non, mais on va pouvoir en parler de cette question. Absolument. Qui est aussi extrêmement importante, en fait. Oui. Mais il est intéressant de se demander pourquoi un pays comme le Rwanda, à un moment, donc, décide de s'extraire de la francophonie. Qu'est-ce que cela dit, justement, de ces relations d'équilibre?
Comment est-ce que vous répondriez à cette question, Yann Gouet, vous qui parlez depuis Kigali, justement?
Écoutez, la réponse est simple. En réalité, le point de vue des autorités rwandaises au moment où elles ont pris le pouvoir, sur la base de l'histoire qui précédait, à savoir la guerre de libération qui a eu lieu au Rwanda, avec le rôle qu'a joué la France aux côtés du gouvernement de l'époque, gouvernement qui a commis le génocide. Mais au-delà de ça, et ça a été documenté par la suite, Et c'est pour ça que la dialectique anglophonie-francophonie est importante, et le fait qu'effectivement l'enjeu de la langue est important. Et il a été documenté que dans l'esprit de la plupart des autorités françaises de l'époque, François Mitterrand, le général Langsade à l'époque, voyait la situation non pas comme une guerre civile, mais comme, si vous voulez, une espèce de guerre qui mettait aux prises justement l'anglophonie et la francophonie, les anglo-saxons qui, dans l'esprit des autorités françaises, venaient conquérir un espace qui était censé être celui de la France.
Est-ce que vous diriez du coup, Yann Gouette, est-ce que vous avez l'impression, Yann Gouette, que c'est toujours cette façon de voir les choses qui domine aujourd'hui la francophonie entendue comme une politique institutionnelle?
Oui, je le pense d'autant plus. Je le pense d'autant plus que les autorités, les hommes politiques français eux-mêmes en parlent en ces termes. Encore en 2015, il y a un rapport un rapport parlementaire qui a été donc publié sur la stabilité et le développement de l'Afrique francophone, qui parlait expressément de la langue française comme devant être le premier des axes de la politique française pour, je cite, conserver notre principal véhicule d'influence politique et culturelle. Donc il est clair que pour les parlementaires français, pour les autorités françaises, la question de leur langue est fondamentalement politique. Et de ce point de vue, je pense que les autorités françaises actuelles, les députés à l'époque, s'inscrivent effectivement dans une tradition historique qui a toujours considéré la langue française d'abord comme un instrument fondamentalement politique.
Alors les autorités françaises, elles sont d'abord incarnées par le président de la République. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu, vous, cet après-midi, Marie-Béatrice Leveau, dans le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron? Ou bien est-ce que vous avez entendu autre chose?
Il y a deux choses que je voudrais dire. La première, nous, c'est notre avis au Conseil économique, social et environnemental. C'est le rôle de la société civile qui est là. A été voté à l'unanimité. Il a été voté au mois de janvier 2018. Il est un petit peu plus récent que le rapport dont parle actuellement de 2015. Deuxième chose, c'est, je pense que le président de la République n'a pas dit ça cet après-midi. Je pense qu'on est en train de faire une erreur de fond sur à quoi sert le français, en quoi il est utile en 2018 et pour le 21e siècle. On n'est pas du tout en train de replacer le français comme étant la langue maternelle que doivent apprendre tous les pays africains de l'espace international francophone. On est en train de dire deux choses. La première, il faut absolument que la langue maternelle des pays, quelle qu'il soit, en Afrique, en Asie ou ailleurs, soit véritablement la langue qui est, je dirais, portée par le pays. Et que le français devient finalement la première, deuxième langue. Et je pense qu'on est en train d'expliquer là quelque chose qui n'existe plus. Il n'y a pratiquement plus de pays aujourd'hui qui ont envie de faire apprendre le français en école maternelle. Je dirais, évidemment, il y a encore des cultures qui le font, mais globalement, le Rwanda est passé à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que le Rwanda demain ne prendra pas le français comme première, deuxième langue. Et je pense qu'un des objectifs du français, c'est de devenir peut-être la première, deuxième langue d'une mondialisation qui ne s'écrit pas uniquement en anglais. C'est ça qu'a voulu dire le président de la République, c'est-à-dire le multilinguisme.
Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus cohérent et peut-être plus convaincant, du coup, de tenir un tel discours ailleurs que à l'Académie française,
pourquoi nous sommes
à Paris?
En France, que vous avez la Journée internationale de la francophonie.
Si on dit que la France n'est qu'un pays parmi d'autres, l'espace francophone, peut-être que c'est
bien
de le faire.
Mais elle a bien le droit aujourd'hui, le 20 mars, pour une fois, alors que depuis des années, des tas de pays, des tas de villes, des tas d'écoles dans le monde fêtent la francophonie en faisant une dictée le matin dans toutes les écoles, ce qui n'est pas le cas de la France, on est pour la première fois depuis des années en train de réouvrir une porte, une nouvelle porte qui dit ça fait sens la francophonie, que ce soit au plan politique, que ce soit au plan économique, que ce soit sur tout un ensemble de plans. C'est 16% du PIB français, l'espace international mondial, l'espace international francophone, 16% du PIB mondial. Donc on n'est pas du tout dans une approche hégémonique, et c'est pas ce qu'a dit le président de la République cet après-midi. Il a dit la langue, c'est quelque chose de profond. La seule différence de la France avec tous les autres pays de l'espace francophone, c'est que c'est notre langue maternelle. Pour tous les autres pays, ce n'est pas leur langue maternelle.
Voilà, j'ai d'ailleurs cité quelques extraits de ce qu'il a, de ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. On aurait pu aussi, d'ailleurs, et j'aurais pu citer un extrait de ce qu'il était allé dire au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ça, c'était fin novembre. Là aussi, il a fait un discours sur la francophonie. Il a d'ailleurs rappelé cet après-midi qu'en s'adressant aux étudiants burkinabés, il avait parlé de la francophonie et que ça n'avait pas vraiment suscité de grandes réactions, qu'il avait l'impression que ceux qui étaient face à lui ne comprenaient pas vraiment de quoi il parlait quand il parlait de francophonie. Mais il avait dit ça fin novembre. Notre langue française est une chance, elle a un avenir et cet avenir se joue en Afrique. Son rayonnement, son attractivité n'appartient plus à la France. La francophonie a depuis bien longtemps échappé à la France. Oui. Nadia Yalakissoki dit, est-ce que c'est pas la preuve quand même que on n'aborde plus du tout de la même manière cette francophonie et que ce n'est plus un instrument de domination, mais que la France se rend peut-être compte que certes, elle fait partie de cet espace, mais elle n'en est qu'une partie parmi d'autres.
Alors, je trouve ces positionnements extrêmement intéressants parce que ce qui est passionnant, en fait, avec les déclarations de notre président, c'est de voir à quel point les ambitions qui sont mises dans un ensemble de politiques culturelles, économiques, que sais-je encore. Mais je voudrais revenir sur plusieurs points. Par exemple, il est vrai que vous avez dit tout à l'heure depuis quel lieu doit se faire cette défense de la francophonie. Et il est extrêmement intéressant de voir que le lieu qui a été choisi, c'est l'Académie française, est au moment où d'autres lieux qui précisément défendent la francophonie ferment et une francophonie décentrée, horizontale. Et il aurait pu être intéressant, par exemple, que le tarmac, qui va fermer très bientôt, ce qu'on a appris en janvier, soit précisément aussi un des lieux que notre président ait pu choisir pour précisément défendre une approche décentrée de la langue.
Alors, faut préciser, le tarmac, pour notamment les auditeurs qui ne sont pas parisiens, c'est une salle de spectacle parisienne, c'est une scène francophone, c'est-à-dire qui est là pour valoriser justement la création francophone, entendue plutôt comme non française, hein, parce que c'est quand même essentiellement ça, et qui va fermer parce que fusionner avec un autre théâtre qui va se réinstaller dans ses murs. Voilà, juste pour
oui,
la précision.
Oui, c'est cela en fait. Donc au moment où on ouvre le débat sur la francophonie, on ferme des lieux où précisément cette francophonie décentrée existe. Donc en gros, l'enjeu, ce n'est pas d'être dans des positions dogmatiques, idéologique, d'opposition stricte à cette parole-là, ça n'a pas d'intérêt, mais simplement de saisir quelles sont les contradictions qui sont à l'œuvre entre un discours et un ensemble de pratiques. De la même manière que j'étais étonnée, je lisais ce matin dans le Figaro, la lettre passionnante écrite par Michaël Jean, je crois, le 19 mars, pour célébrer précisément cette journée.
Qui est la secrétaire générale de la francophonie. Hein, voilà.
Et elle disait aussi, avec beaucoup de lyrisme et beaucoup de force, en fait, je crois. Il ne s'agit pas de démonter, de déconstruire d'emblée des propos, mais que le français avait vocation à être une langue de circulation des idées, une langue de débat. Mais là aussi, on est confronté à des contradictions, à savoir que quand même, un des directeurs de l'OIF, un immense économiste, M. Kako Nupuko, a quand même été suspendu de ses fonctions pour avoir ouvert un débat de haute tenue sur le franc CFA. Donc comment fait-on quand on veut défendre une langue, quand on veut défendre des idéaux, une certaine forme d'universalisme, quand on est confronté à chaque fois à ce type de position? Donc c'est une demande de clarification en fait.
Marie-Beth Risseau.
Deux choses, plusieurs choses, parce que c'est passionnant. Et ce qui est passionnant, c'est que la passion que cela ouvre, finalement, la francophonie, ça veut dire quelque chose. Mais ça serait un côté plus psychanalytique du sujet.
Ouais, c'est pas, pendant longtemps, on pouvait se dire, d'ailleurs, parler de la francophonie, enfin, quand on était journaliste, ça va être un peu ennuyeux.
Pas du tout.
On voit qu'il y a l'exact contraire, justement, ce soir.
Déjà, le président de la République a dit quelque chose cet après-midi. Il a proposé un collège des francophonies. Il a proposé au Collège de France de finalement s'associer avec d'autres instituts dans d'autres espaces francophones internationaux pour créer cette espèce de dynamique autour du dictionnaire de la francophonie qui est un dictionnaire des Français. Parce que finalement ce qui est aussi très intéressant, c'est que la langue française, et il l'a redit aussi cet après-midi, c'était intéressant, est une langue de traduction. C'est-à-dire qu'en fait la langue française est traduite et on traduit en français. Et ça, je crois que cette question de la langue, d'une langue de traduction dans un monde qui pourrait être, je dirais, uniforme en anglais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne questionne absolument pas aujourd'hui cette espèce d'hégémonie de la langue anglaise ou d'une langue anglaise qui porterait la mondialisation des affaires, qui porterait la mondialisation de tout un ensemble de valeurs et de manières de penser. Et que, je dirais, réouvrir la porte de l'utilisation de la langue française comme certainement, je dirais, d'autres langues angles peuvent le faire, c'est aussi redécouvrir finalement une richesse, et la redécouvrir au XXIe siècle, c'est pas nécessairement reprendre les vieux habits du XXe.
Mais si on se met d'accord, Marie-Béatrice Levaux, et je vais revenir vers vous très vite, hein, Yann Gouette, toujours à Kigali, au Rwanda, si on est d'accord pour dire que, par exemple, la langue anglaise véhicule un certain nombre de valeurs qui seraient notamment celles de la mondialisation, ça veut dire qu'on accepte aussi de dire que la langue française, elle aussi, serait porteuse de valeurs, et de quelles valeurs ?
Je pense que la langue française, qui se dit aujourd'hui, pour avoir quand même pas mal bougé aussi sur ces sujets-là, ce qui se dit, et qu'on m'a dit souvent, c'est on ne comprend pas pourquoi la France s'est désengagée de la francophonie. C'est-à-dire que, je dirais, la francophonie dit qu'elle a besoin de France, et aujourd'hui la France dit qu'elle a besoin de francophonie. Il y a une espèce de rééquilibrage, même politique, du sens que l'on donne aux choses. Je pense que la langue française aujourd'hui, en partage, comme le dit si bien Michaël Jean, c'est quand même un moyen d'écrire l'histoire du monde avec un autre regard. C'est quand même la langue des Jeux Olympiques qu'on aura en 2024. Et sport et francophonie, ça a quelque chose à dire. C'est la langue des valeurs, je dirais, des droits humains. Et on peut les redire autrement. Et il y a beaucoup de choses à dire de négatif aussi sur ce sujet. Donc c'est pas non plus un idéalisme et on n'est pas dans la naïveté sur ces sujets-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que y compris les jeunes, il y a une envie de la langue française comme étant un nouveau levier pour aborder différemment les choses, parce qu'on pense différemment quand on pense dans des langues différentes.
Alors j'aimerais avoir justement sur ce sujet l'avis et de Yann Gouette et de Nadia Yalakisoukidi. Est-ce que pour vous, Yann Gouette, la langue française est porteuse de valeurs spécifiques qui seraient notamment des valeurs, par exemple, émancipatrices, si on pense évidemment à la devise républicaine, la liberté, l'égalité, la fraternité?
Écoutez, je vais vous donner un exemple pour répondre à votre question. Hier, je participais à un débat ici à Kigali dans le cadre du sommet des chefs d'État qui a lieu à Kigali pour ratifier une zone de libre-échange continentale. Et c'est un débat avec des jeunes dans une université, et donc tous sont étaient pour la plupart anglophones. Et une des questions qu'ils m'ont posées, parce qu'ils savaient que j'étais francophone, et c'est une question qui revient sans arrêt ici à Kigali, alors on se demande, quelle est la relation que vous avez en Afrique francophone avec la France? Pourquoi vous ne sortez pas de cette relation incestueuse dont on voit bien qu'elle nuit aux pays francophones qui sont largement en retard par rapport aux pays anglophones? Et cette question-là revient sans arrêt dans la bouche de jeunes Africains et même dans la bouche de moins jeunes. Pareil, au niveau du sommet des chefs d'État, là, on a une population un peu différente, plus âgée. Les débats tournaient autour, donc, étaient des débats économiques, etc. Mais, si vous voulez, ce qui ressort dans les conversations, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que les pays francophones, parviennent à se défaire de la tutelle de la France et enfin rejoignent le club des pays entre guillemets qui sont capables de faire des affaires et fonctionner comme les autres. Donc il y a ce consensus, si vous voulez, au niveau d'une majorité d'Africains.
Et est-ce qu'il y a cette idée, Yann Gouette, que les pays africains anglophones auraient peut-être mieux réussi justement à se défaire des relations avec l'ancien empire colonial britannique? Je vais juste citer, avant de vous laisser répondre, un intellectuel écrivain sénégalais qui s'appelle Phil Winsar, qui dit: les anglophones semblent avoir mieux réglé la question de la déconnexion coloniale. Les Nigérians, il prend l'exemple des Nigérians, se moquent par exemple des Britanniques et font leur vie comme bon leur semble.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais, si vous voulez, à l'extérieur de l'Afrique francophone et à l'extérieur de la France, en réalité, la plupart des Africains regardent la relation entre la France et l'Afrique avec une grande curiosité. Ils ne comprennent pas, par exemple, la persistance du franc CFA dont on parlait à l'instant, et plein d'autres incongruités. Ils ne comprennent pas le lien qui unit encore aujourd'hui la France et l'Afrique, l'Afrique francophone et la France. Et donc, quand on parle de valeurs émancipatrices, si je pose la question que vous avez posée à Kigali, les gens ne comprendraient même pas la question, si vous voulez, tellement la réponse paraît évidente. au vu de l'histoire et même du présent, si vous voulez.
Nadia Yala, qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, c'est vrai que le débat sur les langues qui véhiculent des valeurs, c'est un vieux débat aussi de la pensée philosophique européenne. Je ne reviendrai pas sur ce débat, mais j'aimerais le poser précisément à partir d'un des grands promoteurs de la francophonie. Et on cite souvent, depuis quelques jours, les mots de Léopold Sédar Senghor, et notamment les mots que Léopold Sédar Senghor avait donnés à la revue Esprit en 1962, en portant son projet de francophonie. Donc, on connaît la passion de Léopold Sédar Senghor pour la langue française, sa syntaxe, son style, etc., etc. Et effectivement, pour Senghor, il y a quelque chose dans le français, il y a quelque chose qui se véhicule d'un ensemble de valeurs puissantes, fortes, et notamment l'idée d'universel. Mais souvent, on cite Senghor sans prendre toute la mesure, en fait, de ce qu'il disait de la francophonie. Et notamment dans ce texte de 1962, toute la fin du texte se concentre sur l'idée qu'il y a eu colonisation réciproque, donc maintenant, nous avons en partage une même langue. Sauf que colonisation réciproque implique décolonisation réciproque chez Senghor. C'est-à-dire que de la même manière que des auteurs parfois africains francophones, puisque là on se centre sur la francophonie africaine, hein, mais de la même manière que des auteurs africains francophones peuvent se reconnaître dans des auteurs, dans des valeurs issues de la langue française, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure précisément les Français arrivent à se désidentifier de leur propre territoire national pour commencer à s'identifier à la négritude, à l'arabisme. Et il me semble en fait que dans ce vœu de Senghor, en fait, ne correspond pas du tout à la manière dont, précisément, la francophonie s'est structurée, opposant toujours, constamment, un centre, la France, à des périphéries, et comme s'il y avait une espèce de dépréciation symbolique, constamment, en fait, de la part des locuteurs francophones, comparés aux locuteurs qui sont issus, justement, du territoire national.
Ça veut dire que les Français se pensent toujours, aujourd'hui, comme des francophones à part ?
Oui, je pense, bien sûr. Et c'est là il y a tout un enjeu puissant dans ce débat sur la francophonie. En revenant, en essayant de promouvoir une francophonie décentrée, cela signifie aussi qu'à un moment, peut-être, la France, comme telle, en se pensant francophone, doit repenser la manière dont s'écrit son propre récit national.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi un petit peu ce que vous dites quand même, Marie-Béatrice Levaux, dans le rapport que vous avez rendu pour le CESE ? Vous aviez aussi publié une tribune, vous aussi, dans Le Monde, hein, qui évoquait cette question. Et vous disiez notamment ceci, la France doit assumer son rôle majeur dans la francophonie institutionnelle. Pourquoi un rôle majeur ? Est-ce que la francophonie ne pourrait pas, alors si ce n'est se passer de la France, mais en tout cas, considérer chacun de ses pays membres comme des pays qui ont le même pouvoir, la même puissance ?
D'abord, on ne peut pas réduire la francophonie à la relation entre la France et l'Afrique. J'ai l'impression de repartir 20 ans en arrière. Je veux dire, parlons du Québec.
Quand on entend le chef de l'État aujourd'hui, en tout cas, on sent que c'est le continent qui est promis de toute manière au plus bel avenir, s'agissant de l'expansion de la francophonie.
Je veux dire, il n'y a pas que la France qui se questionne là-dessus. Je dirais, la Chine aujourd'hui apprend le français pour être en Afrique. On a, je dirais, l'Allemagne qui a un développement absolument incroyable dans les pays africains actuellement au plan économique. Et la question ne se pose par personne. On est, je dirais, englué, il n'y a pas d'autre terme, y compris intellectuellement, sur cette vision que nous devons définitivement, fermer cette réflexion autour de en quoi la langue française, la France, encore une fois, je l'ai dit, n'est pas propriétaire de sa langue. Aujourd'hui, il y a des langues françaises. On ne parle pas tout à fait le même français au Québec, dans certains États africains, dans certaines régions d'Amérique du Sud, comme on peut, je dirais, le parler, y compris on ne parle pas de la même manière en France, tout simplement. Donc il faut qu'on admette, d'une part, un peu de pragmatisme, cette histoire.
Oui, mais c'est par rapport à la puissance de la langue et à sa circulation, qui circule de manière très libre, mais il y a aussi dans la francophonie des institutions au sein desquels les rapports sont peut-être un petit peu plus hiérarchisés.
Écoutez, par exemple, la seule institution francophone, je dirais officielle aujourd'hui, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est aujourd'hui effectivement 84 États et gouvernements qui sont rassemblés. Le sommet a lieu à la fin de cette année à Erevan, en Arménie. On va avoir là aussi des discours des chefs d'État. Moi, j'étais à Madagascar au dernier sommet, qui disent un certain nombre de choses. Et le Premier ministre du Québec dit aussi des choses sans aucune, je dirais, avec beaucoup moins de précautions, finalement, que ce que le président de la République a pu faire cet après-midi, c'est-à-dire à la fois entendre que questionner la francophonie en France, c'est un sujet difficile, c'est un sujet polémique, et en même temps qu'il faut réouvrir, je dirais, tout cela, redonner une vision plus dynamique des choses, sans vouloir revenir sur cette histoire qu'il y aurait une hégémonie de la France sous prétexte qu'il y aurait encore le franc CFA. Ce sont des sujets totalement différents et je pense qu'aujourd'hui, les pays africains s'autonomisent vraiment et que la génération qui arrive, et ça a été dit, a des perspectives, a des visions et que, je dirais, il y a de moins en moins d'étudiants africains qui choisissent la France pour faire leurs études. Je dirais pour deux raisons. La première, parce que la France n'a pas réinvesti sur l'accueil des étudiants en France et en langue française, et que beaucoup d'universités américaines l'ont fait, et qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'étudiants qui partent dans les universités américaines. Et encore une fois, on se pose pas la question de savoir ce que sont en train de faire les Américains sur le sujet.
Ouais, alors, des pays qui s'autonomisent, il y avait aujourd'hui dans un certain nombre de journaux des tribunes très intéressantes, et notamment dans Libération, une tribune qui est signée par des blogueurs congolais et burundais, et qui évoque alors à la fois l'intérêt de la langue française pour un pays notamment comme la République démocratique du Congo, en disant il y a énormément de langues et le français c'est ce qui permet justement de dialoguer entre nous tous. Et en même temps ils évoquent la question de l'institution qui est l'Organisation Internationale de la Francophonie qui a sanctionné le Burundi. Ils disent finalement ça a aussi privé beaucoup de jeunes Burundais d'un certain nombre de programmes, de compétitions sportives et finalement on nous impose quand même aussi des règles qui peuvent être des règles mouvantes, qui sont des règles politiques. Est-ce que c'est aussi comme ça que c'est ressenti? Alors, je ne vais pas vous demander de parler pour toute l'Afrique, Yann Gouet, évidemment, mais enfin, en tout cas, l'idée aussi qu'on se sert peut-être parfois de l'institution de la francophonie pour faire passer des questions politiques. Et finalement, après tout, pourquoi pas d'ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas assumer le fait que c'est un instrument géopolitique et l'assumer totalement?
Ben justement, je ne comprends pas pourquoi une grande partie des élites françaises n'assument pas quelque chose qui, moi, me paraît tout à fait légitime, à savoir de faire d'un instrument de la langue, d'assumer le fait que la langue est un instrument de pouvoir, est un enjeu fondamentalement politique, ça me paraît parfaitement légitime comme conception. D'autant plus que dans les faits, il est écrit, c'est comme ça que la France conçoit la chose. Et encore une fois, moi, en tant qu'Africain, ça ne me gêne absolument pas que la France assume un rôle majeur, pour reprendre l'expression de Madame Leroux dans un de ses rapports. Ça ne me gêne absolument pas. Je trouve ça tout à fait légitime. Et je trouve, de la même manière, je trouve tout à fait légitime également que, en tant qu'Africain, et je ne suis pas le seul dans ce cas, qu'on puisse effectivement remettre en cause, questionner la nature de l'emploi de la langue française par la France. Mais si je pouvais juste rajouter un deuxième point un petit peu différent, il me semble que la plupart des francophones africains se trompent sur la nature de la francophonie du point de vue de la France. Toutes les questions culturelles, etc., sont intéressantes, mais je pense très franchement qu'elles passent à côté de l'essentiel. Si vous regardez les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique, de manière générale, la France n'échange quasiment plus avec l'Afrique francophone. Les trois principaux partenaires commerciaux de la France sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Voilà. Et la France, y compris dans beaucoup de rapports divers, assume le fait que l'Afrique francophone servent désormais, si vous voulez, de faire valoir pour accélérer ces échanges commerciaux avec l'Afrique anglophone. Donc en réalité, c'est moins l'Afrique francophone et toute la partie culturelle, etc., et que moi je trouve au fond un peu folklorique, c'est moins ça qui intéresse la France. Ce qui intéresse réellement la France, c'est en fait l'Afrique anglophone. C'est une région qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus dynamique économiquement, et c'est réellement vers là que les yeux de la France se tournent. Et de ce point de vue-là, l'Afrique francophone, encore une fois, sert en fait de faire valoir, et c'est assumé comme ça dans des rapports. Donc je pense qu'il faut il faut aborder la question de façon extrêmement pragmatique, de façon extrêmement décomplexée, et assumer les choses comme elles sont. Ça me paraît beaucoup plus sain, si vous voulez, pour le débat.
Davantage de pragmatisme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie-Béatrice Levaux et Nadia Yalakisoukidi, Marie-Béatrice Levaux?
Moi, je pense que la France a eu une culture, je dirais, de relations étrangères très bilatérales, et qu'on est aujourd'hui dans l'espace international francophone, dans un monde multilatéral, et que les équilibres dont on parle là ne sont pas que des équilibres bilatéraux entre certains certains États africains et la France, on est aussi dans cet espace international francophone, dans une approche multilatérale qui n'était pas effectivement la culture, on va dire, traditionnelle de la diplomatie française. Donc aujourd'hui, il y a aussi un réapprentissage de ces enjeux. On l'a vu par exemple sur la COP21, on l'a vu sur un certain nombre de scènes internationales. L'intérêt, et on voit bien aujourd'hui en Europe, où finalement l'espace francophone européen est moins exprimé. Et il existe, puisqu'il y a 17 États de l'Union européenne qui sont membres de la francophonie aujourd'hui. Et finalement, francophonie Europe, ça n'a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Le président de la République l'a dit cet après-midi. Donc on voit bien que c'est multilatéral, que bien sûr il y a un enjeu avec l'Afrique, mais l'Afrique dans sa globalité, mais il y a des enjeux avec d'autres continents.
Mais sur l'idée, Marie-Béatrice, ça vaut d'avoir une approche un petit peu plus pragmatique, plus décomplexée, plutôt que peut-être d'être dans les discours un petit peu de principe, en disant la langue française, c'est merveilleux, ça véhicule des valeurs absolument merveilleuse, alors que il y a aussi des dirigeants, des chefs d'État francophones qui sont pas du tout démocrates et ça pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt nécessité d'avoir une approche peut-être plus justement à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire moins dans cette nostalgie de ce qu'est la grandeur française.
Je pense pas que ce soit la nostalgie de la France. C'est pas ça le problème. Le sujet c'est la langue française, c'est pas la France. Je crois qu'on se trompe de débat. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aujourd'hui, c'est que l'espace international francophone, il existe et il a quelque chose à dire dans la mondialisation. Et ce qui fait lien entre tous ces acteurs, c'est effectivement l'utilisation de la langue et la manière dont on va continuer à la faire vivre. Mais on peut l'atteindre. Peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus de langue française et là, on aura peut-être des gens qui se diront que finalement, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, tout est pragmatique, c'est-à-dire l'économie, bien entendu, la culture, les échanges et une autre manière de voir le monde. Et effectivement, la langue, c'est ce qui crée la pensée.
Nadia Yala, qu'est-ce qu'il dit ?
Oui, tout est précisément pragmatique. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas perdre de vue que les politiques liées à la langue participent à des stratégies de puissance, en fait. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile et il devient abstrait de penser ces réflexions sur la francophonie en les dégageant, d'une centralité française qui se réaffirme constamment, en fait. Donc ici, on a affaire à quelque chose comme la production, une chose qui est assez connue dans le champ de la géopolitique, d'un soft power, avec un ensemble précisément de prises de position sur la francophonie. Si on en reste à l'Afrique, puisque c'est quand même un terrain qui est important, et puis moi, c'est un terrain que je connais un peu mieux que d'autres, il y a eu un ensemble de déclarations qu'il faut lier entre elles du président, qui sont assez puissantes et qui ont même valeur, qui font histoire. Je pense à la restitution des œuvres d'art spoliés pendant la colonisation, la volonté de développer encore plus la coopération interuniversitaire avec le continent africain, un ensemble de missions pour voir comment essayer de développer, de renouveler les missions de l'Agence française pour le développement. Tout cela, ça fait partie aussi d'une mission de soft power, de stratégie de puissance qui, là aussi, sans passer par la contrainte, sans passer là aussi par la coercition, pour reprendre ces définitions strictes, ne dit pas que la France n'a pas toujours des stratégies pure de puissance, d'ordre militaire et économique sur le continent, en fait.
Il y a une grande réflexion qui a été lancée, alors avec notamment appel à des contributions des internautes, et puis avec un certain nombre d'intellectuels qui ont été approchés, parmi eux Alain Bancou, qui avait signifié dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron qu'il refusait justement cette mission, en disant notamment parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à la francophonie, et notamment il disait ceci: la francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Ça reste quand même le principal reproche adressé aujourd'hui justement à cette francophonie pensée depuis Paris. Pour vous, Nadia Yala, qu'est-ce qu'il dit ?
Elle est pensée depuis Paris, mais ce qui est extrêmement important, je ne prendrai pas de grosses catégories lourdes, remobilisant l'idée de néocolonialisme, ce genre de choses, mais il est clair que la politique africaine de la France en Afrique, c'est une politique qui suscite un peu la paranoïa quand même et qui ne se construit pas, il n'y a pas vraiment de relations confiantes au regard d'un ensemble de pratiques qui ont été menées. Et il est vrai que dans ce cadre, s'engager dans cette réflexion sur la francophonie depuis la France implique un certain nombre de clarifications sur un ensemble de faits et de pratiques politiques qui sont toujours à l'œuvre sur le continent africain.
Et moi j'attends avec impatience le discours du président de la République à Erevan.
Et moi je l'attends aussi avec impatience.
Voilà, donc ce sera le prochain sommet de la francophonie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Ben voilà, on aura quand même prouvé que la francophonie, ça peut être un sujet absolument passionnant de débat. Merci à vous Marie-Béatrice Levaux, Nadia Yala Kisukidi, et merci à Yann Gouette qui je le rappelle, intervenait depuis le Rwanda. Merci également à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulcer et Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.